Si met au chapitre 6 de l'Épître de Paul aux Romains. C'est un texte qui est très dense, très lourd. Et je vais essayer de tirer quelque chose d'important, de particulier, notamment dans l'approche de la fête de Pâques. Romains 6, le verset 1. Romains 6, le verset 1 à 7. Disons au nom du Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Ce texte a déjà fait l'objet d'une étude biblique les jeudis soirs. Mais je l'ai choisi ce matin parce que je voulais parler à travers ce passage de la signification spirituelle du baptême chrétien. La signification spirituelle du baptême chrétien. Donc, à travers ce passage de Romains 6, l'apôtre Paul, en fait, nous explique comment la grâce de Dieu opère. On parle souvent de la grâce, oui, Dieu nous appelle grâce, mais ici, Paul nous explique comment la grâce opère tout en établissant un lien, un rapport entre la grâce, évidemment, et la signification spirituelle de ce qu'on appelle le baptême chrétien. Et la conclusion à laquelle l'apôtre Paul est parvenu, c'est que l'homme, en réalité, appartient à ce qu'il a choisi. Nous faisons des choix tous les jours, mais l'homme, en réalité, appartient à ce qu'il a choisi. Vous appartenez à ce que vous avez choisi. Autrement dit, vous devenez semblable à celui à qui vous obéissez. Je deviens semblable à celui à qui j'obéis. Alors, bon, de toute façon, je ne peux pas être parfait. Alors, qu'arrivera-t-il si je commets quelques péchés? Dieu me pardonnera. Voilà. De telles paroles, de telles idées vous sont déjà peut-être passées à la tête. Mais c'est un piège fréquent pour beaucoup de chrétiens, étant donné qu'ils savent bien que tous les problèmes, en tout cas, ne sont pas résolus par le fait d'être sauvés, en vertu du fait que nous sommes rendus justes par la foi, tel que Paul l'expose en Romains 3 et Romains 4, nous sommes libérés de la sanction du péché et de la culpabilité qu'on découvre. Mais la puissance, notamment la puissance du péché, reste toujours active. Elle travaille en nous, elle nous tente. Alors, est-ce que la conclusion, c'est de se laisser aller au gré des circonstances, hein, et de dire, mais après tout, bon, il est dit dans la parole de Dieu que si je confesse mes péchés, voilà, Dieu est fidèle et bon, vous me les pardonnez. Au risque, bien entendu, que cela devienne une espèce de jeu où vous ne gagnez jamais et qui vous donne une mauvaise conscience au final. Ce faisant, l'apôtre Paul nous apporte une bonne nouvelle. Nous n'avons pas à continuer à pécher, puisque la puissance du péché sur nous a été brisée lorsque nous sommes devenus chrétiens. Briser la puissance du péché? On ne le dirait pas. Alors pourquoi les chrétiens ont-ils autant de tentations et pêchent-ils encore? Pourquoi? L'apôtre Paul aborde donc un sujet difficile dans ce chapitre 6. Alors, juste pour rappel, au chapitre 5, l'apôtre Paul a souligné l'abondance de la grâce de Dieu par rapport au péché de l'homme. Et cela est résumé au chapitre 5, au verset 20. Il dit, oh, la loi est intervenue pour que la grâce abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et cela nous amène naturellement à la question qu'il pose au chapitre 1er de Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous encore dans le péché afin que la grâce abonde? Autrement dit, l'apôtre Paul imagine que quelqu'un demande si la grâce de Dieu est proportionnelle au péché de l'homme, si la grâce de Dieu est en fait, augmente avec le péché, allons-nous continuer délibérément à pécher pour que la grâce de Dieu continue à abonder davantage? Est-ce que c'est ça la façon adéquate d'utiliser la grâce de Dieu envers les pécheurs? L'apôtre Paul répond à cette dangereuse question en montrant qu'elle se base sur une incompréhension totale de la manière dont la grâce de Dieu opère. Pour qu'un pécheur profite pleinement de la grâce, il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait un échange précis, mais surtout un échange personnel par la foi entre lui et Dieu. Il faut un échange. Et la nature de cet échange, je parle bien de la nature, c'est un échange de nature spirituelle. Donc, la nature de cet échange est telle qu'elle produit une transformation totale dans la personnalité même du pécheur. Nature. À cette transformation produite par la grâce de Dieu dans la personnalité du pécheur, il n'y a plus d'aspect opposé, mais qui se complète parfaitement. D'abord, il y a la mort. La mort. Il parle de la mort au péché, c'est-à-dire la mort à l'ancienne vie. D'abord, il y a la mort. Et ensuite, il y a la vie. Il parle d'une vie consacrée à Dieu et à sa justice. Merci à Marc pour le message de dimanche passé sur la justice de Dieu. À la lumière de ce fait, nous avons deux autres possibilités, cette fois-ci, qui s'excluent mutuellement à propos de la façon dont la grâce de Dieu agit sur la personnalité du pécheur et les résultats qu'elle produit, cette grâce. Frères et sœurs, si nous avons bénéficié de la grâce de Dieu, en tout cas, nous sommes par conséquent, nous sommes nécessairement morts au péché. Si nous avons bénéficié de la grâce, nous sommes nécessairement morts au péché. Alors, nous regardons la médaille. D'un autre côté, si nous ne sommes pas morts au péché, c'est que nous n'avons pas béni. C'est de la grâce de Dieu. Voilà ce que Paul nous dit. Il est donc impossible, bien aimé, de bénéficier de la grâce de Dieu tout en vivant dans le péché. Voilà ce que Paul dit. Ces deux choses ne peuvent jamais, mais vraiment au plus jamais, aller ensemble. Bénéficier de la grâce de Dieu et vivre encore dans le péché. C'est pas possible. L'apôtre Paul le dit. C'est deux. Loin de là. Mais nous qui sommes morts au péché, et comment vivions-nous encore? Le fait que le véritable chrétien est par la grâce de Dieu mort au péché est répété de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. En l'occurrence, ce passage, Romains 6, les versets 6 et 7, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et pour que nous ne soyons plus esclaves du du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Quelle en est la signification? Pour chaque personne qui accepte la mort rédemptrice de Christ à sa place, pour chaque personne qui l'accepte, le vieil homme corrompu dans la nature et pécheresse a été crucifié, le corps du péché d'homme abandonné. Par la mort, cette personne a été libérée d'un coup justifié du péché. Il n'y a aucun besoin d'en être esclave. En conséquence, il n'y a aucune raison pour que le péché continue d'exercer un contrôle, une domination sur nous. Ce faisant, quelle est la double conséquence? La double conséquence du fait que Christ habite dans nos cœurs. Je dis souvent que Christ habite dans mon cœur. Mais quelle est la double conséquence du fait que Christ habite dans nos cœurs? D'abord, la mort de la vieille nature charnelle. Mais Christ ne peut pas habiter là où il y a le péché, encore en résistance. D'abord, la mort. Mort, le corps, autrement dit, le corps du péché est mort. Ensuite, une nouvelle vie de justice par l'action de l'Esprit de Dieu. L'Esprit est vie, justement, à cause de la justice, nous dit l'apôtre Paul. Le fait d'être mort au péché et de vivre pour la justice est quelque chose de beaucoup plus profond que le simple pardon de nos péchés. Cela amène le chrétien vers un domaine d'expérience spirituelle totalement nouveau, différent. Vous voyez, beaucoup de chrétiens dans presque toutes les dénominations croient vaguement que leur péché passé peut être pardonné. En fait, c'est probablement presque la raison principale de leur présence à l'Église. Se confesser et obtenir le pardon des péchés qu'ils ont commis. Cependant, ils n'ont aucune idée ni espoir même d'expérimenter une transformation intérieure de leur propre nature. Le résultat, c'est qu'une fois leur péché confessé, ils quittent l'Église presque inchangés et continuent à commettre le même genre de péché qu'ils viennent de confesser. Et en fin de compte, ils reviennent à l'Église confessant encore les mêmes péchés. Telle est la religion faite par l'homme, à un niveau humain, religion à laquelle on ajoute quelques formes de, extérieures justement de la vie chrétienne. Et cela a peu de points communs, voire aucun avec le salut. Le salut que vous portez, le véritable problème par la foi en la mort expiatoire de Christ. Le but central, le but principal, le but principal par la mort expiatoire de Christ n'était pas seulement que l'homme soit capable de recevoir le pardon des péchés passés, mais plutôt qu'une fois pardonné, en tant que préalable, qu'une fois pardonné pour le passé, il soit capable d'entrer dans un nouveau domaine d'expérience spirituelle. Le préalable, c'est qu'il doit être mort au péché et vivant pour Dieu et sa justice. Il ne doit plus être esclave du péché, et le péché ne doit plus avoir aucun pouvoir sur lui. Cela a été bien entendu rendu possible, mais parce que Christ, dans son expiation, non seulement a pris sur lui la faute de nos péchés et en a payé le prix, mais par-dessus tout ça, il s'est fait un avec notre nature déchue, corrompue et pécheresse. Il s'est fait un. Et lorsqu'il est mort sur la croix, selon les affirmations de la Bible, notre vieille nature, le corps du péché, notre vieille nature est morte aussi en lui et en lui. Donc, pour que le chrétien puisse entrer dans la réalité du dessein de l'expiation de Christ, il y a, vous avez compris, deux conditions essentielles à remplir. Elles sont annoncées par l'apôtre Paul, dans un ordre logique au verset 6. Au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit et pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La crucifixion de notre vieil homme avec Christ a été un événement historique précis qui a eu lieu à un moment donné dans le passé. Romains 6, 11 dit ainsi, vous-même, regardez comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, le mot d'introduction ainsi montre en fait le lien entre l'expérience du Christ et aussi celle du croyant. La même expérience qui a été celle du Christ doit être la même expérience qui doit être celle du croyant. La signification est celle-ci, tout comme Christ est mort, tout comme Christ est mort, reconnais-toi aussi que tu es mort avec lui. Tout comme Christ est mort, on reconnaît que toi aussi tu es mort avec lui, ou plus brièvement, la mort de Christ était la tienne. Voici donc les deux conditions essentielles pour rentrer dans l'expérience de la mort au péché et de la vie de justice pour Dieu. D'abord connaître et ensuite reconnaître. D'abord connaître, oui, il faut connaître. Et ensuite reconnaître. Frères et sœurs, je dois d'abord connaître ce que la parole de Dieu enseigne sur la raison de la mort de Christ. Christ est mort. Je dois connaître la raison de la mort de Christ. Et ensuite, je dois reconnaître que la parole de Dieu est la vérité. Donc, pour moi en particulier, et ce faisant, je dois l'appliquer par la foi dans une situation. Donc, cette expérience peut devenir la nôtre si et seulement si nous savons et reconnaissons comme vrai ce que la parole de Dieu enseigne sur le but de la mort de Christ. À propos de ce but essentiel de la mort de Christ, dans l'expiation de Christ, étant mort au péché, nous vivions pour la justice. Nous devons affirmer deux choses qui peuvent à peine être constatées. D'abord, dans toute la révélation du Nouveau Testament, il n'existe pas de vérité plus importante que celle-là, du point de vue pratique, que celle que nous voulons. Et ensuite, il n'y a aucune vérité qui suscite cependant davantage d'ignorance parmi les chrétiens. Osée chapitre 4, verset 6 nous dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. La première condition énoncée par Paul pour entrer dans le dessein essentiel de la mort de Christ est de savoir. Il faut savoir. Si le peuple de Dieu ne connaît pas cette vérité, mais il ne peut pas y croire. Mais quand je dis connaître, ce n'est pas de façon intellectuelle. Non. Si le peuple de Dieu ne connaît pas, n'a pas la conviction de cette vérité, il ne peut pas y croire. Et s'il n'y croit pas, il ne peut pas l'expérimenter non plus. Donc, par conséquent, la première grande nécessité est d'apporter cette vérité à l'Église et de la garder continuellement devant l'Église de la façon la plus claire et la plus appuyée qui soit. Si vous enlevez de la Bible ce qu'on appelle les éléments d'expérience spirituelle, notamment les expériences de conversion, repentance, les prophéties, les miracles, les visions, si vous enlevez toutes ces choses de la Bible, que va-t-il rester? Un livre d'histoire, un livre de morale. C'est tout, mais qui ne va pas conduire au salut. Sans le surnaturel, nous pouvons avoir une doctrine du Nouveau Testament, mais une doctrine vide qui ne mène nulle part, qui ne conduit à aucune expérience. Une telle doctrine séparée de l'expérience surnaturelle est décrite par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Dit-il, la lèpre tue, mais l'esprit fait quoi? L'esprit vivifie, l'esprit donne la vie. C'est le Saint-Esprit. Et lui seul qui peut donner vie à la lettre de la doctrine du Nouveau Testament et peut en faire une façon de vivre vivante, personnelle et surnaturelle surtout pour chaque chrétien. Mais Paul nous dit connaître, ensuite reconnaître et expérimenter. Alors maintenant, quelle est la relation entre la vérité essentielle de la mort du Christ, ce qu'on appelle l'expiation, et l'ordonnance du baptême chrétien. Quelle en est la relation? La réponse à cette question est la suivante. Frères et sœurs, dans le domaine naturel, après chaque décès, il y a un enterrement. Mais le même ordre existe aussi dans le domaine spirituel. Voyez? D'abord la mort, puis l'enterrement. Par la foi, par la mort de Christ, par la foi, par l'expiation de Christ, nous reconnaissons, en accord évidemment avec la parole de Dieu, que nous sommes morts avec lui. Nous reconnaissons que notre vieil homme, le corps du péché, est mort. Ensuite, l'étape suivante prévue par la parole de Dieu est l'enterrement de ce vieil homme, ce corps de péché qui est mort. Il faut l'enterrer. L'ordonnance par laquelle nous enterrons le vieil homme, évidemment, est celle du baptême, baptême chrétien. À chaque service de baptême chrétien, frères et sœurs, évidemment mené selon le modèle du Nouveau Testament, je parle bien du baptême par immersion, il y a deux étapes successives. D'abord, un enterrement, et ensuite, une résurrection. Ces deux étapes de baptême correspondent exactement et parfaitement aux deux étapes de la transformation intérieure chez le croyant qui accepte l'expiation de la mort de Christ pour lui. D'abord, la mort au péché, ensuite la nouvelle vie de justice pour Dieu. Le baptême chrétien est en premier lieu, je disais, un enterrement dans une tombe, évidemment remplie d'eau. C'est un enterrement et ensuite une résurrection hors de cette tombe vers une nouvelle vie vécue pour Dieu et pour sa justice. L'enterrement est l'expression visible de la mort au péché, la mort du vieil homme. La résurrection est l'expression visible de la nouvelle vie pour la justice et pour Dieu. Donc, le Nouveau Testament déclare explicitement cela comme étant le véritable dessein et la signification du baptême chrétien. Relisons Romains 6, 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons dans une nouveauté de vie. Et c'est la même chose que Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 12. Il dit, mais ayant été enseveli avec lui par le baptême, enseveli, enterré par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ensevelissement, résurrection. Ces deux passages, dans ces deux passages, les deux étapes successives du baptême sont clairement exposées. D'abord, nous sommes ensevelis avec Christ par le baptême, donc c'est l'immersion en sa mort, et ensuite, nous sommes ressuscités avec lui par la foi, par la puissance de Dieu, pour marcher avec lui tous les jours en nouveauté de vie. Mis à part cette vérité fondamentale de l'enterrement et de la résurrection, quand c'est sur l'insécurité, il y a trois thèmes importants à propos de baptême dans ce verset. Premièrement, par le véritable baptême chrétien, nous sommes baptisés, dit l'apôtre Paul, en Christ lui-même. En Christ lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas baptisés en une église. Nous ne sommes pas baptisés en une secte particulière, nous ne sommes pas baptisés en une dénomination particulière, non, nous sommes baptisés en Christ lui-même. Deuxièmement, l'effet du baptême dépend de la foi personnelle de celui qui est baptisé. Et c'est par la foi dans le Dieu agissant, plus simplement par la foi en ce que Dieu fait. On ne force pas quelqu'un pour le baptême. Parce que l'effet va dépendre de sa foi personnelle. Ce que ce baptême va produire en lui va dépendre de la foi, de l'acceptation volontaire. Troisièmement, le croyant qui sort de l'ensevelissement par les eaux du baptême pour marcher en nouveauté de vie ne le fait pas de ses propres efforts, mais par la puissance de Dieu, cette puissance même qui a sorti Jésus du tombeau, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu lui-même. Ainsi, le croyant qui passe par les eaux du baptême s'engage par là à une nouvelle vie pour Dieu et sa justice, une vie qui doit être vécue dans une totale dépendance de la puissance même du Saint-Esprit. Cela concorde avec ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 10, « Et si Christ est en vous, le corps qui est vrai est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice divine. » Donc, seul l'Esprit de Dieu peut donner aux croyants baptisés la puissance dont il a besoin pour cette nouvelle vie de justice. Selon le modèle du Nouveau Testament, frères et sœurs, chaque fois que de nouveaux croyants sont ajoutés à l'Église, ils témoignent par l'ordonnance du baptême de leur identification par la foi en Christ. D'abord en sa mort et ensuite en sa résurrection en nouveauté de vie. De cette façon, l'ordonnance du baptême sert continuellement à porter, à garder, en tout cas devant toute l'Église, le dessein central de Dieu qui est la mort expiatoire du Christ. Il s'ensuit que cette vérité essentielle concernant la mort expiatoire du Christ ne pourra jamais être totalement restaurée dans l'Église chrétienne tant que les véritables méthodes et significations du baptême chrétien n'auront pas d'abord été restaurées. Le baptême chrétien doit redevenir pour chaque chrétien individuellement ainsi que pour l'Église tout entière, un rétablissement de cette double vérité, la mort d'un côté et l'ensevelissement au péché de l'autre. La résurrection et la vie pour la justice en Dieu. L'apôtre Paul, en bon enseignant de la parole, justement avec des mots, a tracé comme un tableau pour représenter ce qui se passe lorsqu'une personne devient chrétienne. Elle devient un élément du corps de Christ et meurt symboliquement avec Christ, tout comme Christ est mort à la croix. Elle ressuscite aussi avec lui comme Christ est sorti du tombeau. Alors, est-ce que cela est difficile à comprendre? Oui, mais c'est encore ici la différence essentielle entre le christianisme et la religion. Le chrétien, n'est pas celui qui se contente simplement de suivre les grands enseignements du Christ. Non, le chrétien est celui qui est un avec Christ, dans une relation personnelle avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul affirme au verset 6, mais comprenez bien que votre ancienne manière de vivre a été clouée la foi avec lui pour que votre nature pécheresse soit réduite à l'impuissance, que vous ne soyez plus sous la domination du péché et que vous n'ayez plus besoin d'en être esclave. Ma nature pécheresse a-t-elle été clouée réellement à la croix? Cette partie de moi qui aime le péché est-elle morte, mise à mort? Vous n'en avez pas l'impression, peut-être pas, mais souvenez-vous que Paul dépeint un tableau et que c'est la façon dont vous voulez regarder ce tableau qui fait la différence. Comment voulez-vous regarder ce tableau? C'est là le secret pour saisir ce passage. Il dit, regardez-le donc ainsi. Paul, devenir chrétien veut dire non seulement commencer à suivre Christ, mais bien plus, vous vous identifiez à lui, vous devenez une partie de lui. De même que Christ a vaincu la puissance du péché par sa mort et sa résurrection, il a aussi porté un coup mortel à l'ancienne nature pécheresse qui fait partie de chacun d'entre nous. La question est, voulez-vous que ce coup mortel agisse en votre faveur ou préférez-vous continuer à lutter? C'est un paradoxe. Christ ne force pas la porte pour entrer dans votre jeu. Il n'entre pas en disant, écoutez, c'est moi le maître, à partir de maintenant, voilà, tu feras ce que je veux. Non, il vous laisse le choix. Vous n'êtes plus sous la domination du péché, mais vous n'êtes pas un robot pour autant. En fait, les robots n'ont pas de tentation, mais ils sont incapables d'aimer, d'être joyeux et d'avoir la paix. L'apôtre Paul nous dit encore que considérez ou de regarder notre nature pécheresse comme mort. Autrement dit, vous pouvez vraiment être arraché au grégoire. Paul ne dit jamais que le chrétien est à l'abri de la tentation, fermé au péché, enveloppé hermétiquement dans un emballage plastique, portant une étiquette sur laquelle il est écrit le mot salut. Non. Les tentations du péché nous viennent encore. Mais Paul nous signale qu'à présent, le péché n'est plus notre seule alternative. Car une autre voie est ouverte, celle de l'obéissance à Jésus-Christ. À vous de choisir. En effet, le choix est constant dans la vie. À chaque décision que vous prenez, vous vous tournez concrètement soit vers le péché, soit vers Christ. Il n'y a pas de troisième voie, il n'y a pas de troisième issue qui serait notre. Vous ne pouvez pas rester comme vous êtes. Vous changez tout le temps, que vous le vouliez ou non, vous devenez semblable à celui à qui vous êtes. Obéir au péché vous conduit à la frustration, à la désillusion et à une sorte d'endurcissement cynique à l'égard de l'évangile. Mais si vous obéissez à Christ, il façonnera votre vie. Celui que vous choisissez vous servira et sera enfin votre maître. Ainsi, vous devenez semblable à celui à qui vous appartenez. C'est ainsi que nous choisissons l'un des deux maîtres, Dieu ou bien le péché. Certains croient que tout en péchant encore un peu, volontairement, ils sont encore maîtres de leurs actions. Non, ce n'est pas ainsi. De cette façon-là, vous ne dominez pas le péché, mais c'est lui qui vous appartenez à la puissance à qui vous décidez d'obéir. Même après avoir accepté Christ par la foi, chers et sœurs, le péché continuera à dominer sur votre vie, à moins que votre foi en Christ ne soit constante et concrète. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Amen. Amen.
Amen. Je vous invite à proclamer encore une fois notre victoire à travers ce chant, une réponse à